Parcours Cœur de Jésus. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Étape 1. Le message de Paray le Monial.
Chers amis, bonjour. Je voudrais commencer avec vous aujourd'hui ce qui se voudrait être un parcours cœur de Jésus pour aider tous les fidèles du Christ qui souhaiteraient préparer une consécration au cœur de Jésus, personnelle ou familiale, voire paroissiale, en s'appropriant davantage cette grande tradition bimillénaire qui nous renvoie aux sources mêmes de la révélation. Deux papes, Pie XI, dans l'encyclique Miserentissimus Redemptor de 1928, puis Pie XII, dans l'encyclique Aurietis Aquas de 1956, ont dit que dans le cœur de Jésus se trouve en quelque sorte le résumé de toute la religion. Il ne s'agit donc pas seulement d'une dévotion, mais d'une approche de l'ensemble du mystère chrétien, relu à la lumière du cœur de Jésus, que nous révèle le coup de lance qui, dans l'évangile de Jean, vient frapper le côté du Christ alors que celui-ci est déjà mort. Pour entrer dans ce mystère qui nous renvoie donc à toute notre vie chrétienne, à toute notre vie de baptisé, eh bien, je voudrais vous proposer 8 rencontres comme celle-ci, qui devraient être vécues dans un climat à la fois de prière et de vie fraternelle, avec idéalement un petit temps de prière suivi d'un enseignement d'environ 3 quarts d'heure, suivi d'un temps d'adoration eucharistique, car le cœur de Jésus qui nous a aimés il y a 2000 ans se donne à nous aujourd'hui dans ce sacrement d'amour et éventuellement d'un petit temps de partage fraternel. Il s'agit donc avant tout de faire une expérience du cœur de Jésus à travers la parole de Dieu, à travers le Christ lui-même présent dans son Eucharistie et dans ses frères rassemblés dans la prière en Église. Je voudrais commencer ce parcours en exposant ce qui s'est produit il y a maintenant un peu plus de 3 siècles à Paray le Monial et qui a conduit à l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Car pour entrer dans ce mystère si central du cœur de Jésus, la dévotion et la liturgie sont une voie royale, même si bien sûr il ne faut pas s'y arrêter mais aller vers le mystère qu'elle montre et qu'elle célèbre. Et puis, dans un deuxième temps, nous ferons la même chose à propos du message de la Divine Miséricorde confié à Sainte Faustine en Pologne au XXe siècle et qui constitue, selon un des meilleurs spécialistes de la spiritualité du cœur de Jésus, comme une inculturation du message du cœur de Jésus pour aujourd'hui. Et donc, nous aurons ces 2 portes d'entrée dans le mystère que sont Paray le Monial et Cracovie. Et ensuite, nous parcourrons les 4 piliers de la catéchèse, à savoir la foi, les sacrements, la vie morale et la prière, du point de vue du cœur de Jésus, pour montrer justement que dans ce cœur se trouve en quelque sorte le résumé de toute la religion et que se consacrer à ce Sacré-Cœur, c'est aussi en quelque sorte renouveler ses engagements baptismaux, renouveler sa consécration baptismale. Ce faisant, nous espérons répondre à la demande faite par Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, lorsqu'un groupe de laïcs lui a fait part de son désir de voir être renouvelée la consécration de notre pays, la France, au Sacré-Cœur, et qu'il a dit qu'il était important pour une telle démarche de proposer une pédagogie. Eh bien, c'est très modestement cette pédagogie pour entrer dans le mystère du cœur de Jésus que nous voulons vous proposer. Nous commençons aujourd'hui en rappelant ce qui s'est produit dans notre pays, justement la France, à la fin du XVIIe siècle, à Paray-le-Monial en Bourgogne, à travers les apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie. Celles-ci ont eu lieu entre 1673 et 1675, à l'époque du roi Louis XIV, le roi Soleil, dans ce grand siècle qui a été le siècle aussi des saints, le XVIIe siècle, et où la France était, j'allais dire, au fait de sa gloire temporelle et aussi de sa vocation chrétienne. Ces apparitions ont été données à une humble religieuse, sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui depuis son plus jeune âge a été gratifiée de manifestations particulières de la part du Christ, qui lui a appris à faire oraison, à se vouer par un vœu de chasteté dès l'âge de 5 ans, à se donner totalement au Christ, à avoir un grand amour pour la Sainte Eucharistie depuis sa première communion, à se détourner des distractions mondaines et à choisir la voie de la vie religieuse pour devenir pleinement l'épouse du Christ. La première apparition a lieu en la fête de Saint-Jean, le 27 décembre 1673, alors que Marguerite-Marie est entrée au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial depuis 2 ans et demi. Elle est donc une disciple de Saint-François de Sales, docteur de l'amour, évêque de Genève, qui voulait que les filles de la Visitation se sanctifient non pas d'abord par des pénitences corporelles, mais par l'imitation des deux plus chères vertus du Sacré-Cœur que sont la douceur et l'humilité du Christ dans la charité fraternelle. Et donc c'est une disciple de François de Sales qui va recevoir au cœur de sa vie religieuse comme un deuxième appel à travers ces révélations qui vont lui être faites du Sacré-Cœur. La première apparition a lieu alors que Marguerite-Marie se trouve en prière devant le tabernacle de la chapelle de la Visitation, puisqu'elle dispose d'un certain temps de loisir. Et à ce moment-là, elle va être comme investie de la divine présence du Christ qui va la faire reposer pendant plusieurs heures sur sa poitrine, à l'instar du disciple bien-aimé, et lui découvrir les merveilles de son amour. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, dira-t-elle, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors et qu'il m'ouvrit pour la première fois. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, dit-il, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. » Donc la première expérience de Marguerite-Marie ce jour-là, c'est de faire justement l'expérience de l'amour fou du Christ pour elle et pour tous les hommes, et en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. À un certain moment, le Christ prendra même le cœur de Marguerite-Marie dans sa poitrine, le plongera dans le sien et le replacera dans sa poitrine comme une flamme ardente dont elle sentira la brûlure et la douleur jusqu'à la fin de ses jours. C'est donc en quelque sorte un embrasement d'amour que vit Marguerite Marie ce 27 décembre 1673. Mais en même temps, comme elle le dira plus tard au père Croiset, un jésuite à qui elle se confiera, eh bien aussi, ce même jour, elle fait l'expérience d'une croix plantée dans le cœur du Christ et, dira-t-elle même, depuis le premier instant de son incarnation. « Ce divin cœur me fut présenté, dira-t-elle, dans un trône de flamme, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable, et il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire que dès lors que ce sacré cœur fut formé, la croix y fut plantée, et elle fut remplie dès ses premiers instants de toutes les amertumes que devaient lui causer les humiliations, pauvreté, douleur et mépris que la sacrée humanité devait souffrir pendant tout le cours de sa vie et en sa sainte passion. » En ce première apparition qui comporte en germe toutes les grâces que le Sacré-Cœur veut révéler à Marguerite Marie et au monde entier à travers elle, eh bien, il y a à la fois une expérience de béatitude qui est liée à l'expérience d'un amour fou du Seigneur pour elle et pour tous, et en même temps aussi l'expérience d'une douleur liée au fait que cet amour n'est pas aimé. Dans la deuxième apparition, qui est représentée ici, sur cette image qui est la fresque qui aujourd'hui se trouve dans le monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, fresque qui a été réalisée en 1964 par un artiste qui s'appelle Luc Barbier et qui a été influencé par la pensée et la mystique du père Teilhard de Chardin, jésuite, qui a été une personne qui a eu une certaine influence au Concile Vatican II. Donc, dans la deuxième apparition représentée ici, le Christ s'est manifesté à Marguerite Marie alors qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement exposé avec ses cinq plaies brillant comme cinq soleils et en particulier la plaie de son côté qui laissait découvrir son cœur comme une fournaise ardente. Dans cette apparition, qui a eu lieu en 1674, quelques mois donc après la première apparition, un premier vendredi de 1674, eh bien le Christ se plaint à Sainte Marguerite Marie du peu de retour d'amour que lui témoignent les hommes après tout ce qu'il a enduré pour les sauver. Et il demande à la Sainte deux actes de réparation, c'est-à-dire deux actes pour suppléer à ce manque d'amour. Tout d'abord, la communion, le premier vendredi de chaque mois, à une époque marquée par le jansénisme, où on communiait très peu, malheureusement. Et d'autre part, il lui demande de l'accompagner chaque jeudi soir, entre 23h et minuit, dans son agonie, où il a imploré le Père pour demander miséricorde pour les pécheurs, mais où il a été attristé aussi par la défection de ses disciples bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, qui, en l'heure de l'agonie, avaient dormi. Donc, c'est un appel à être pour Jésus un ami selon son cœur ou une amie selon son cœur. Marguerite Marie, d'ailleurs, en sera très confuse et demandera au Christ, « Mais comment, moi, puis-je te rendre amour pour amour ?» Et à ce moment-là, le Christ lui découvrira sa poitrine et une flamme sortira de son cœur pour embraser celui de Marguerite Marie. C'est par l'amour même qu'elle reçoit du Christ qu'elle peut rendre à celui-ci amour pour amour en se laissant aimer par lui. la troisième grande apparition a lieu en l'octave de la fête Dieu, en juin 1675, et c'est dans cette apparition que le Christ prononcera cette phrase célèbre « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible, disait-il, est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. » Jésus demande alors qu'une fête particulière soit dédiée à son Sacré-Cœur le vendredi qui suit l'octave du Saint-Sacrement pour honorer son cœur et réparer les outrages qu'il a reçus dans la Sainte Eucharistie, et il promet des grâces abondantes à tous ceux qui lui rendront cet honneur. Voilà brièvement rapporté l'essentiel de ces trois apparitions principales de Parelmonial à Marguerite Marie. Qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui en 2021? Eh bien, je dirais peut-être trois choses. La première, c'est que Dieu, à travers ce symbole de ce cœur brûlant d'amour de son Fils Jésus, notamment dans l'Eucharistie, eh bien nous dit qu'au fond, il n'est qu'amour. Il n'y a rien là de très nouveau. Au fond, c'est toute la révélation, et en particulier tout l'évangile de Jean. Mais, pourtant, eh bien, cette révélation, elle nous est tout autant indispensable aujourd'hui qu'à l'époque de Marguerite Marie, parce que nous ne cessons de nous faire des représentations de Dieu qui ne correspondent pas à ce qu'il est en vérité. À l'époque de Marguerite Marie, l'Église était traversée, je l'ai dit tout à l'heure, par une hérésie terrible, le jansénisme, qui prétendait qu'on n'était jamais assez pur pour s'approcher de Dieu, parce que Dieu était justice et que l'homme était péché. Et que donc, d'une certaine façon, eh bien, il fallait avant tout s'humilier, faire pénitence devant Dieu pour obtenir son amour, et qu'on n'était même jamais suffisamment pur pour pouvoir recevoir la Sainte Communion. Ce jansénisme a été condamné par l'Église, mais il a marqué beaucoup les mentalités chrétiennes, y compris sous la forme de ce qu'on a pu appeler le rigorisme, qui en était une version édulcorée. Et par ailleurs, cette époque de Marguerite Marie était aussi une époque où les élites françaises commençaient à être touchées, je dirais, par une tentation philosophiste, à la suite peut-être du cartésianisme et des philosophes libertins du XVIIe, se préparait déjà ce qui allait être l'époque des Lumières, où les élites françaises et européennes allaient nier la révélation au nom des droits de la raison, et ainsi se faire une image de Dieu qui n'est plus celle que donne justement la révélation, à savoir un Dieu d'amour. Et il est probable, eh bien, que c'est pour guérir la tête par le cœur que Jésus a voulu se manifester à Parelmonial. Et aussi peut-être pour guérir les tendances aussi libertines qui étaient aussi celles de ces élites de la France à l'époque du roi Soleil, notamment à la cour de Versailles. Mais qui pourrait dire que notre époque n'a pas elle aussi besoin de se convertir, d'avoir une conversion des cœurs à la douceur et l'humilité, à la miséricorde du cœur du Christ, mais aussi une conversion de notre intelligence à sa sagesse et de notre vie à ce qu'il demande de nous en tant que disciples de l'amour, en tant que disciples du Christ. Alors, pour nous donner ce message, Jésus ne fait pas de longs discours, mais il utilise un symbole qui est peut-être même le symbole par excellence, à savoir le symbole du cœur, justement. Le cœur, dans la Bible, ce n'est pas d'abord l'amour, c'est ce que le pape Jean-Paul II appelait le mystère intérieur de l'homme. C'est bien sûr d'abord un muscle qui bat au creux de notre poitrine dans un mouvement incessant de diastole et de systole, comme un peu comme un petit soleil intérieur autour duquel tout gravit d'une certaine façon, puisque le cœur est le réceptacle de tout le sang qu'il envoie dans tout le corps, mais en même temps un muscle qui est caché en humble place, comme j'allais dire un ministre de l'intérieur, là où la tête est davantage à l'extérieur, plus visible, elle commande de façon visible, le corps, le cœur a quelque chose de caché. Et c'est pourquoi, par excellence, il est le symbole d'un mystère, du mystère que nous sommes en tant qu'êtres humains, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre histoire, quel que soit le milieu auquel nous appartenons, quelles que soient nos capacités, nos facultés, notre état de santé, depuis le premier instant de notre conception dans le sein de notre mère jusqu'à notre mort naturelle, à savoir que nous sommes un mystère que Dieu seul peut sonder, car les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur. C'est vrai, de ce mystère, nous pouvons pressentir quelque chose à travers les paroles et les gestes que nous pouvons observer chez nos frères et sœurs et qui nous disent quelque chose de ce qui se vit à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ultimement, Dieu seul peut savoir ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne pouvons juger personne. Et nous-mêmes, en ce qui concerne notre propre cœur, même si nous y avons bien sûr davantage accès que nos frères et sœurs, mais ultimement, nous ne sommes pas capables de dire ce qu'il est véritablement. Dieu seul est capable de percer ce mystère. Et en même temps, ce mystère rassemble en quelque sorte toutes les composantes de notre être. Tout d'abord, le fait que nous sommes un corps, puisque ce muscle qui bat au creux de notre poitrine nous renvoie à notre corporéité, mais aussi que nous avons une affectivité. Nous ne sommes ni des anges, ni des animaux, mais nous partageons avec les animaux cette capacité d'être affectés par des émotions. Notre cœur peut battre plus ou moins vite, hein, selon nos émotions, que ce soit la joie, ou la peur, ou la colère, ou la tristesse, ou bien sûr, l'amour. Et puis, dans la Bible, ce cœur évoque aussi la mémoire, le lieu de notre présence à nous-mêmes, à notre histoire et finalement à notre identité. Ce qui suppose d'ailleurs une capacité réflexive, une capacité de faire retour à soi dans un certain silence, une certaine solitude, un certain recueillement. Le fait de perdre la mémoire dans la Bible, c'est déjà le commencement du péché, puisque la première invitation que Dieu fait à son peuple, c'est de se souvenir de qui lui, il est Dieu, et de ce que lui, le peuple, est pour Dieu et avec Dieu. Et c'est vrai de chacun de nous, en tant qu'il est l'unique de l'unique. Donc, la mémoire est le lieu de notre présence à nous-mêmes, cette capacité que nous avons de revenir en nous-mêmes comme la Vierge Marie qui gardait toutes choses dans son cœur. Mais le cœur est aussi, dans la Bible, le lieu de l'intelligence, le lieu de la pensée, puisqu'à l'image de Dieu, nous sommes dotés d'une raison qui nous rend capables de connaître les choses dans ce qu'elles sont, et en même temps de nous connaître nous-mêmes en tant qu'êtres connaissants. Et puis, ultimement, et c'est le plus important et le plus intime en même temps, le cœur dans la Bible est le lieu de la relation, le lieu de l'alliance. Pour parler comme le catéchisme de l'Église catholique, il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître, il est le lieu de la décision. Au plus profond de nos tendances psychiques, il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort, il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation, il est le lieu de l'alliance. quand Jésus montre son cœur à Marguerite Marie, il lui révèle en quelque sorte ce qui est le secret même de son être, de sa vie, en tant que Dieu fait homme, dans son cœur humain uni à sa divinité, dans son unique personne divine. Et finalement, ce qu'il montre, c'est que ce cœur n'est qu'amour. Un amour fou, un amour qui brûle comme une flamme, qu'il veut nous communiquer. Et voyez, ce qui est le propre du symbole, au fond, c'est de respecter notre liberté. Car le symbole est un langage qui jaillit justement du cœur, mais qui est destiné au cœur de ceux qui le reçoivent, qui ont la capacité, avec leur intelligence intuitive, de reconnaître ce qu'il est, ou au contraire, de le refuser. Si un jeune garçon veut dire à une jeune fille qu'il l'aime, il peut le lui dire, mais ça peut être assez plat. Il peut aussi lui offrir un bouquet de roses. Et la jeune fille, en recevant ce bouquet, eh bien, elle pourra y voir tout simplement un bouquet, ou elle pourrait y voir quelque chose de plus, peut-être justement une parole silencieuse qui sollicite sa liberté et éventuellement lui permet de donner à son tour une réponse. Eh bien, le symbole, en tant que justement il sollicite à la fois notre intelligence et notre liberté, est le langage par excellence de l'amour, car l'amour ne s'impose pas, mais il se propose, il se donne. Il ne se démontre pas, mais il se montre, et il peut être accueilli comme refusé. Et donc Jésus, pour exprimer son amour donné jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, sur la croix et dans l'Eucharistie, nous montre son cœur. Voilà la première partie et la plus importante, évidemment, du message de Parrainmonial qui va beaucoup contribuer à faire du cœur dans le monde entier le symbole de l'amour. Mais la deuxième partie est éprouvante, car Jésus nous révèle en même temps que la plupart des gens, face à cet amour fou qu'il a pour nous sur la croix et encore une fois dans l'Eucharistie jusqu'à la fin du monde, eh bien, la plupart des gens sont indifférents. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a là quelque chose de terrifiant, parce que à l'époque, en France, en cette fin du grand siècle, apparemment tout va bien sur le plan religieux. Pratiquement tout le monde est catholique, les églises sont pleines. Tout le monde va à la messe, sauf les nourrissons, ou les vieillards en fin de vie, ou les grands malades. Il y aura bientôt 120 séminaires en France, et ils sont tous pleins. Et la France commence à exporter des missionnaires, en Asie, à Madagascar, au Canada. Et pourtant, le Christ vient et il se plaint. Cela peut sembler déconcertant. Mais justement, ce qui est le mystère du cœur, c'est que Dieu ne regarde pas les apparences, même si les apparences sont flatteuses. Il regarde les cœurs. En ce moment même, il regarde nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il cherche au fond? Eh bien, il cherche des cœurs qui brûlent comme le sien. Et quelle est sa douleur? Eh bien, c'est qu'il n'en trouve pas suffisamment. La vocation normale d'un chrétien, c'est de brûler. De brûler du feu de l'amour de Dieu. D'ailleurs, d'une certaine façon, nous n'avons pas le choix. D'une manière ou d'une autre, il faut brûler. Soit dans ce monde de l'amour du cœur de Jésus, soit dans la vie après la mort, dans le purgatoire, si nous avons été tièdes dans ce monde, voir ce qu'à Dieu ne plaise, bien sûr, en enfer, si nous avons été carrément froids. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut brûler. Et au fond, le Seigneur nous laisse libres de choisir notre feu, de pouvoir dire, mais moi, Seigneur, je veux brûler de ton amour. Ton sacré cœur sera mon purgatoire, comme le disait la petite Thérèse. Non pas tant parce que je veux échapper aux flammes du purgatoire, mais parce que je veux consoler ton cœur. Je veux te faire plaisir en te faisant confiance et en te laissant m'aimer jusqu'à la folie pour pouvoir te rendre amour pour amour. Et donc, Jésus se plaint à Marguerite Marie de ce que son amour n'est pas aimé, n'est pas compris des hommes, et en particulier dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement où le Christ se donne le plus. C'est vrai que le Christ est présent à son Église de multiples façons, dans ses sacrements, dans ses ministres, dans sa parole, dans l'assemblée en prière, dans l'âme des baptisés en état de grâce, dans le plus petit de ses frères, et finalement en toute chose en tant que créateur. Mais là où il est le plus présent, c'est dans l'Eucharistie, parce que là, il est présent substantiellement en son corps et son sang, et par concomitance, eh bien, son humanité, sa divinité. Et donc, c'est là, dans l'Eucharistie, que notre adoration peut trouver, si je puis dire, son sommet. Mais ce qu'ajoute la fête du Sacré-Cœur, c'est que dans l'Eucharistie, c'est l'amour même du cœur de Jésus qui nous est communiqué. Cette fête a lieu en l'octave de la fête du Saint-Sacrement qui avait pour but de rappeler aux chrétiens précisément que le Saint-Sacrement, c'est la présence de Dieu au milieu de nous, la fête Dieu. Et que donc, comme disait saint Augustin, avant d'aller communier, eh bien, il faut pouvoir adorer celui que nous recevons. Mais ce qu'ajoute la fête du Sacré-Cœur, c'est que dans le Saint-Sacrement, nous est donné l'amour du Christ, donné jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. C'est vrai que le Christ nous a aimés de multiples façons, en nous créant, en nous faisant surgir du néant, en nous donnant tous les dons de la nature, tout ce qui a contribué jusqu'à aujourd'hui à ce que nous puissions exister et vivre en ce monde. Et puis tous les dons de la grâce, les dons de son esprit, hein, les dons que nous avons reçus à travers les sacrements, la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit, les charismes qui viennent perfectionner aussi toutes les vertus morales, toute l'Église hein, comme corps du Christ, hein, avec tous les trésors de la révélation, des sacrements, la charge pastorale de l'Église à travers les ministres qu'il nous donne, à travers toute sa tradition. Mais là où le Christ nous aime le plus, encore une fois, c'est dans l'Eucharistie, parce que là, il se donne lui-même en personne et dans l'acte du plus grand amour, qui est celui justement de l'Eucharistie et de la croix. Hein, ce qu'on appelle dans la tradition le cœur eucharistique de Jésus, c'est cet amour fou qui a poussé Jésus à vouloir demeurer au milieu de nous jusqu'à la fin du monde, sous les humbles apparences du pain et du vin qui ont été consacrés au cours de la célébration eucharistique. Quand on y réfléchit, il y a là quelque chose de complètement fou. Jésus, au moment où il institue l'Eucharistie, il sait qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu en ce monde et qui va vers son Père à travers la croix. Il sait que son peuple, qu'il a choisi entre tous, va bientôt réclamer sa mort, que les Romains, qui prétendent être les défenseurs de la loi et de l'ordre, vont le condamner et le torturer jusqu'à le crucifier, alors qu'ils savent qu'il est innocent. Et il sait que même ses disciples, qu'il a choisis entre tous, pour les former, pour vivre avec eux jour et nuit pendant 3 ans, qui ont vu tous les signes qu'il a accomplis, qui ont entendu tous ses enseignements, eh bien, vont l'abandonner. Imaginez-vous à la place du Christ. On peut penser qu'il aurait aimé quitter pour toujours ce monde qu'il refusait. Eh bien, au contraire, Jésus, à ce moment-là, sachant tout cela, a eu ce désir fou de se donner à nous jusqu'à la fin du monde dans l'Eucharistie. Il le dit dans l'évangile de Saint-Luc à ses apôtres au moment d'instituer l'Eucharistie, « J'ai désiré d'un grand désir manger avec vous cette Pâque avant de mourir. » C'est ça que la tradition appelle le cœur eucharistique de Jésus, cet amour fou du cœur de Jésus qui l'a poussé à instituer l'Eucharistie. Mais à l'inverse aussi, l'Eucharistie nous donne le cœur de Jésus, car dans l'Eucharistie est représenté, rendu présent, le sacrifice de la croix, dans lequel ont été séparés le corps et le sang du Seigneur par l'immolation de l'agneau. Jésus, dans sa passion, a perdu son sang depuis l'agonie, mais c'est à travers le coup de lance qu'il a été littéralement vidé de son sang, comme l'agneau de la Pâque. Et c'est ce que nous rendons présent à chaque Eucharistie en consacrant séparément le pain et le vin pour manifester cette immolation de l'agneau. Comme le dit aussi le Concile de Trente, c'est à cause du fait que du côté du Christ ont jailli du sang et de l'eau que l'on met dans le calice avant la prière eucharistique une goutte d'eau qui vient se mêler au vin pour signifier notre unité avec le sacrifice du Christ, mais aussi pour rappeler que du côté de Jésus ont jailli du sang et de l'eau. Ce que le Christ nous rappelle à Pâques monial, c'est que c'est son cœur qui nous donne l'Eucharistie et que l'Eucharistie nous donne son cœur et que c'est là qu'il nous aime le plus puisque dans l'Eucharistie nous est communiqué cet amour fou qui l'a poussé à se livrer à nous sous les apparences du pain et du vin et sur la croix lorsque son côté a été transpercé et que c'est pour cela que dans l'Eucharistie c'est là qu'il attend le plus notre retour d'amour mais que malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes souvent tièdes face à ce sacrement d'amour. Et Jésus se plaint en particulier des consacrés, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, les religieuses, de qui particulièrement il attend un retour d'amour du fait de leur vocation particulière à être les amis du Christ. Et donc au fond, ce que Jésus révèle à Pâques monial, c'est que ce dont il souffre le plus d'une certaine façon, c'est de la tiédeur des chrétiens en général, des consacrés en particulier vis-à-vis de l'Eucharistie. Jésus se plaint d'ailleurs aussi dans ses apparitions des sacrilèges commis contre lui dans ce sacrement d'amour et il ajoute ce qui m'est le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Ce qu'a révélé un livre récent écrit par le père Glotin, des plus grands spécialistes de la spiritualité du Sacré-Cœur, un père jésuite, c'est qu'il y a probablement un lien entre cette plainte de Jésus à Marguerite Marie et ce qu'on appelle à la même époque l'affaire des poisons, ce drame qui a lieu à Paris et à Versailles, qui va être l'occasion d'un long et terrible procès, qui va montrer qu'à l'époque de Louis XIV et de Marguerite Marie, se pratiquaient couramment dans la haute société française de l'époque des pratiques de magie blanche et noire, y compris sous la forme de messes noires dans lesquelles des prêtres dévoyés profanaient leur sacerdoce et l'Eucharistie en célébrant des messes sataniques assorties de rites épouvantables dont je vous épargne la description. La propre maîtresse du roi, Madame de Montespan, dont il a eu 7 enfants, avait fait appel justement à un prêtre dévoyé du nom de Guibourg, avec une sorcière du nom de Lavoisin, pour demander la célébration de ces messes noires pour garder les faveurs du roi. Et selon un spécialiste, on peut dire que dans ces messes, c'est en quelque sorte la ritualisation de la trahison de Judas qui se renouvelle. Or, dans l'évangile de Jean, c'est au moment où Jésus annonce la trahison de Judas que Jean va reposer sur le cœur de Jésus et faire l'expérience à la fois de l'amour fou du Christ pour lui, mais aussi de l'amertume qui remplit ce cœur. C'est exactement l'expérience de Marguerite Marie à Pâques monial, bien qu'elle ignore bien sûr tout de ce qui se passe à Paris à l'époque. Et enfin, le troisième aspect du message, et qui est finalement, j'allais dire, la bonne nouvelle de Pâques monial, c'est que, à travers Marguerite Marie, Jésus nous fait comprendre qu'il se cherche des amis. Mais toi, du moins, veux-tu être mon ami? À chacun de nous, chrétiens, appelés à être dans le monde ou à vivre le service de l'Église dans le sacrement de l'ordre ou à être consacré à Dieu dans la vie religieuse ou dans la vie consacrée, le Seigneur lance une invitation personnelle. Toi, du moins, veux-tu être mon ami? Veux-tu que je t'aime Veux-tu accueillir le feu qui brûle dans mon cœur? Veux-tu bien te laisser aimer par moi? Veux-tu bien choisir de te laisser choisir par moi? Et ainsi pouvoir consoler mon cœur en me rendant amour pour amour. Alors, comment répondre à cette invitation? Eh bien, tout simplement, à la suite de Marguerite Marie et de Saint Jean, en se laissant aimer par Jésus, tout spécialement dans l'adoration eucharistique, mais évidemment aussi dans toute la vie chrétienne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la réception des sacrements, dans la vie en Église, dans l'apostolat, dans les œuvres de charité. Mais au fond, ce que Jésus révèle à Parémoniale, c'est que là où il nous attend le plus, c'est dans le temps que nous passons silencieusement avec lui, dans l'adoration de son Sacré-Cœur dans l'Eucharistie. Et que ainsi, nous pouvons, nous qui sommes tièdes ou carrément froids, réchauffer notre cœur au feu qui brûle dans son cœur. Au fond, la vie est simple avec Jésus. Jésus n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est compliqué pour nous d'être simples. Mais Dieu, dans sa miséricorde, veut nous simplifier comme il a simplifié Saint Jean, en nous laissant reposer sur son cœur et ainsi en nous donnant d'accéder aux merveilles de son amour, au secret même qui habite son cœur, à la fois cet amour fou qu'il reçoit du Père et qu'il veut répandre sur les hommes, mais en même temps aussi cette amertume de voir les hommes si peu répondre à son amour. Alors au fond, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous occuper de lui, de prendre du temps pour lui, et lui s'occupera de nous par surcroît, et non seulement de nous, mais du monde entier. Là où on prend du temps pour le Christ, en particulier dans l'adoration eucharistique, le monde devient meilleur, le monde change, parce que nous commençons à changer. Dans l'Ancien Testament, Dieu était apparu en songe à Salomon, à Gabaon, lui avait posé cette question « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Et le jeune Salomon avait répondu « Seigneur, donne-moi un cœur qui sait écouter. » Cette réponse avait plu au Seigneur qui lui avait dit « Mais puisque tu m'as demandé ce cœur sage et intelligent, je te le donne plus que tous les rois de la terre. Et je te donne en plus tout ce que tu n'as pas demandé, c'est-à-dire la santé, la richesse et la mort de tes ennemis, c'est-à-dire la sécurité. » Eh bien, nous pouvons faire mieux que Salomon. Nous pouvons dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Brûle-moi au feu de ton amour. Et alors, non seulement nous ferons la joie de Dieu et la joie de nos frères, mais nous entrerons nous-mêmes dans la béatitude. La vie est simple avec Jésus. Laissons Jésus lui-même parler à notre cœur. Amen.
Parcours Cœur de Jésus. C'était étape 1, le message de Parémoniale. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Réalisé à la demande et avec le concours de l'association Civilisation de l'Amour. À suivre, étape 2, le message de la miséricorde.